ce point et on aura Marc Nzouzi, médecin directeur du Centre de santé Saint-Gérard, comme invité. Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081-070-2050 et si vous souhaitez la lettre, écrivez-nous à action@radiocafé.net.
Et retenez que la mise en onde aujourd'hui à Jean-Claude Fiala, la réalisation Tati Mapoukou, la coordination de Jody Kachama. Nous sommes à Kinshasa pour parler de ce que la loi congolaise dit à propos de la réparation d'un préjudice et nous avons pris cet exemple, nous sommes partis de cet exemple. Vous savez qu'après avoir gagné le procès, les propriétaires des maisons qui avaient été détruites par l'hôtel de ville sur le système Benatende ont été rétablis dans leurs droits. C'était le jeudi dernier que ces personnes ont été réinstallées dans leurs parcelles sur décision du tribunal de grande instance de Kinshasa. Par ailleurs, l'hôtel de ville de Kinshasa devra procéder à l'indemnisation de ces personnes à hauteur de 20 000 dollars américains chacun. Ce montant est jugé insignifiant par les locataires. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont introduire un recours au niveau de la justice? On le saura avec Maître Dominique Camando qui est là justement pour nous parler en tant que membre de l'ONG Avocats sans frontières. Mais d'abord, avec vous, Léon, nous faisons le point puisque nous savons tous que jeudi dernier, les victimes de la démolition du site Benatende ont été rétablies dans leurs droits. Comment ça s'est passé, vous qui étiez sur place?
Ouais, sur place, Nicole, il faut dire que c'était une ambiance de fête parce qu'on pouvait lire sur le visage de chacun des propriétaires des parcelles victimes de la démolition du site Benatende dans la commune de Lingala, la joie, surtout à l'annonce de cette heureuse nouvelle. Hein, de gauche à droite, il y avait des chants, des cris de joie, des danses. D'ailleurs, je vous propose de suivre un extrait de la lecture du procès-verbal sur place.
Moi, Vemba Yemomano, Alphonse, huissier judiciaire près le tribunal de grande instance de la Gombe, suis descendu au site dénommé Tembenatembe, situé dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, où est procédé à la réinstallation collective de requérants. En foi de quoi, j'ai dressé ce procès verbal en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe en date du 28 février 2008. Parmi tant d'autres condamnations, il a été ordonné la réinstallation immédiate de chacun des requérants dans leurs parcelles respectives.
Ils ont l'air plutôt contents, mais d'après ce que nous avons appris, ils réclament que le montant soit revu à la hausse. Alors, est-ce que réellement l'ambiance était à la fête, comme on vient de l'écouter?
Oui, c'est vrai, il n'y avait pas que des cris de joie, de danse, des chants, mais aussi des pleurs, parce que pour plus d'un propriétaire, après la démolition de leur maison sur le site Benatende, il n'y avait plus d'espoir. C'est le cas, par exemple, de cette dame. On écoute.
Naza na sentiment ya kolobate, ya kolobate na pesi nzambe na nga merci mingi. Po er baboto lisilaso babuka kiango nga na zaki na Tanzania na mwona kina Digital Congo. Na lingina kufa ba meminga na hospital na Tanzania. Er na ya wakuti na boy kokoma awa na lupango na tare lupango na nga ndenga babuki. Ndenga babuki bazongi si boyo na walobe na nzambe zate na wotanga perte teme na zotanga kaka na pesi nzambe. Merci. Ndenga ba récupéré. Po ndenga ba zongi si bona tire récupéré le pang na ngai. Ka pesi nzambe na nga merci.
Ndenga tibula ye kati ke iko ba kunzi ba zongi fedlo vani do la po na yo ke mbongwana iza muki eske iza ndenga ni na par rapport à ba dépense au salaire.
Mama na ngai, mama na ngai. Tero na koloba nini? Loko na ba si ba signé 20 000. Po na koloba zate. Ka koloba zate.
Oui, donc cette dame très émotionnée, hein, on sent que vraiment elle est très émue, hein,
ouais, elle est en train de pleurer,
oui. Donc voilà. Une du fait qu'elle va en fait récupérer sa parcelle.
Pour elle, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait plus d'espoir. Elle espérait jamais être réinstallée dans sa parcelle.
Oui, mais on parle de 20 000 dollars américains, hein, c'est le montant en tout cas que devrait l'hôtel de ville devrait donner à chaque locataire. Mais qu'est-ce qu'il pense de cette somme d'argent?
Ouais, il faut savoir, Nicole, qu'ils sont plus de 100 personnes concernées par cette opération et devront être rétablies dans leurs droits. Et André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouverneur provincial de Kinshasa, ont été condamnés par la justice à payer 20 000 dollars américains au titre des dommages et intérêts, en plus de la réinstallation des victimes de la démolition. Et selon ces dernières, ce montant ne représente rien au vu des dépenses engagées. Gérard Molibi, il est président du collectif des locataires du système de la TMBI, nous en parle.
Personnellement, et derrière moi, tous ceux qui sont avec moi, c'est un sentiment de bonheur, de joie. Nous sommes tristes de voir dans quel état nous avons retrouvé le site. Aujourd'hui, on doit devoir recommencer à zéro. Il y a la poubelle, comme vous avez vu, et c'était transformé en toilette, c'était transformé en lieu de refuge pour des bandits. Il y a eu deux parties dans ces jugements. Il y a eu la partie réinstallation sur le site. Il y a eu également la partie dommages et intérêts. Donc, tous ceux qui sont ici vont recevoir 20 000 dollars par parcelle. Ben c'est vrai que 20 000 dollars, ça paraît beaucoup d'argent, mais au vu de ce qui avait été déjà fait ici, 20 000 dollars ne représente rien pour le parcelle, parce qu'il y a des gens qui ont été jusqu'à 400, 500 000 dollars de dépenses. Quelqu'un qui a dépensé 500 000 dollars, si vous lui donnez 20 000 dollars, ça ne représente rien. Donc, sur ces plans-là, la justice a rendu son jugement, on ne peut plus revenir dessus. On attendra qu'on nous donne le 20 000 dollars.
Est-ce que vous n'avez pas peur que notre autorité vienne
Est-ce que ça sera en dehors de la justice? Auquel cas, il y a un problème. Parce que nul ne peut être au-dessus de la loi. Toute autre autorité qui viendrait et qui voudrait aller à l'encontre de la décision de la justice serait en porte-à-faux avec tout ce qui est dit dans la loi et tout ce que le président a dit par rapport à la justice.
En vous réinstallant, est-ce que vous respectez le bornage?
Chacun est censé rentrer dans ses limites d'avant la destruction. Donc chacun est censé rentrer là où il était. Chacun récupère sa parcelle de départ.
Et pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous parlons aujourd'hui dans cette chronique consacrée à l'ONG Avocats aux frontières de ce que dit la loi congolaise à propos de la réparation d'un préjudice, Et nous sommes partis de cet exemple du site Mbenatembe. Vous savez tous que les propriétaires des maisons détruites par l'hôtel de ville aujourd'hui viennent d'être rétablis dans leurs droits. Ils vont récupérer leurs parcelles et on va les indemniser en fonction de 20 000 dollars américains. Mais pour éviter tout conflit entre les requérants, le tribunal de grande instance de la Gombe recommande aujourd'hui le respect strict des limites parcellaires fixées par les affaires foncières avant la destruction. Nous l'avons suivi à travers Gérard Molibi, président du collectif des locataires, mais qui doit payer les dommages et intérêts. Mais Nicole, nous l'avons dit tout à l'heure, le tribunal de grande instance de la Gombe a condamné André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, et son gouvernement provincial à payer 20 000 dollars américains au titre des dommages et intérêts. Plus de détails avec maître Jean-Marie Tubangou, l'avocat qui a défendu les causes et locataires de Siti Mbenatembe.
La décision judiciaire condamne M. Kimbuta Yango à souffrir dans son patrimoine propre. Donc, ils doivent payer solidairement ou l'un à défaut de l'autre. Avec la vie d'Ex-Chassa, ils doivent payer, c'est-à-dire on doit exécuter. L'exécution dans les cas d'espèce, ce n'est pas l'individu qu'on saisit, mais l'exécution dans les cas d'espèce porte sur la saisie des biens jusqu'au moment où vos biens vont répondre à la condamnation, satisfaire à la condamnation. C'est-à-dire, ils sont condamnés, chacun à payer 20 000 à chacun de mes clients. Si on trouve une maison de M. Kimbuta, on saisit. Voilà la saisie, et puis on voit ce que vous appelez vente publique. Donc, si on trouve un bien de la ville de Kinshasa, nous trouvons que souvent, on est en train d'inventer un certain droit qui dit que certains biens des entités nationales ne sont pas saisissables. Mais il y a des biens, une partie des biens qui entrent dans le domaine privé de la ville de Kinshasa. Nous allons les suivre. Ce n'est pas pour rien que nous avons étudié. Nous allons voir quels sont les biens du domaine public, quels sont les biens du domaine privé de l'État ou de la ville de Kinshasa pour les poursuivre et les saisir.
Oui, cette saisie va se faire bientôt, hein, je pense, mais on retient que c'est 20 000 dollars par propriétaire. Ils sont plus de 100, hein. Donc, oui. C'est en millions.
Beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent.
Et puis, comme le président du collectif des locataires l'a dit tout à l'heure, 20 000 dollars, c'est insignifiant par rapport aux dépenses engagées. Et vous l'avez suivi. Il y en a même qui sont allés au-delà de 400 000 dollars. Donc, voilà.
On sait que, je dis, c'est depuis le 28 février dernier que la décision a été prise hein, par la justice. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre fin à l'exécution?
Oui, c'est vrai que c'est depuis le 28 février dernier que la décision a été prise par la justice. Mais selon toujours maître Jean-Marie Tubango, rendre une décision, c'est une chose, l'exécuter, c'en est une autre aussi. Et quand on rend une décision, il faut du temps pour réunir tous les éléments, tous les paramètres possibles. Il explique pourquoi cela a pris beaucoup de temps avant son exécution. On l'écoute.
On a rendu la décision. Il faut une phase d'exécution qui est entourée de beaucoup de problèmes. Problèmes posés par la loi elle-même. On doit dactylographier ou saisir cette décision. On doit la corriger par certains bureaux du greffe. On doit les présenter devant le greffier divisionnel, le chef de greffe. Celui-là aussi, il doit lire et corriger et calculer les frais. Parce que le frais, dans le frais, il y a les frais de justice. Et ce que nous appelons droit professionnel doit dire le 6% sur le montant alloué au client. On doit calculer tout ça. Et enfin, vous qui avez gagné, vous devez payer le 6%. Comme dans le cas d'espèce, c'était environ une somme de 59 000 dollars que mes clients devaient payer comme droit professionnel. Droit professionnel, c'est quoi? C'est l'impôt que la partie condamnée doit en principe payer. Mais comme la partie condamnée n'a pas intérêt à retirer la décision, la grosse, c'est-à-dire l'original de la décision, comme cette partie n'a pas intérêt, c'est vous, la partie gagnante, qui va payer et qui allez payer à sa place, quitte à vous faire rembourser lors de l'exécution. Dans les cas d'espèce, en plus de 59 000, mes clients ont payé les droits proportionnels. Ce qu'ils ont payé là, c'est l'impôt que la ville de Kinshasa, M. Kimbo Tayango, devait payer. Alors, dans les cas d'espèce, lors de l'exécution, nous avons commencé avec la réinstallation. Il y aura la phase d'exécution forcée sur pour ce qui concerne les dommages et intérêts. Dans leur calcul, les huissiers vont mettre encore en plus ce que mes clients ont payé en lieu et place de Kimbo Tayango et de la ville de Kinshasa.
Donc c'est certain que ce montant sera revu à la hausse, hein, puisqu'il y a d'autres aspects qu'il faudrait prendre en compte. On aura à revenir là-dessus avec Maître Dominique Amandou dans un instant, et nous vous rappelons, auditeurs de Radio Capi, que vous aussi vous êtes les bienvenus dans notre émission, en réagissant au 081 070 20 50. Alors nous avons tous suivi ce que vient de dire Maître Tubango. Mais quel est finalement le point de vue des autres juristes sur cette affaire?
Et nous avons posé cette question à Jérôme Mounongo, il est juriste, hein, et selon lui, c'est une procédure normale, ce n'est nullement une juste procédure, hein, parce qu'entre le prononcé d'un jugement et sa matérialisation par une exécution, il se pose par exemple un laps de temps. Donc pour lui, c'est une procédure normale, mais il donne aussi son point de vue sur la procédure. S'est passé.
Lorsque le juge a prononcé sa décision, pour que cette décision devienne opposable aux parties, il faut qu'elle soit signifiée. Une fois signifiée, la partie qui a perdu le procès, en principe, doit s'exécuter volontairement. Et c'est ça la traduction de la volonté du juge sur le terrain. Mais malheureusement, dans plus de 80%, la partie qui a succombé fait de la résistance. Et dans ce cas-là, la partie qui a gagné le procès rentre au tribunal et requiert la force de l'ordre et on procède maintenant à l'exécution forcée. Aujourd'hui, les juges, d'une manière ou d'une autre, ont, entre guillemets, rétabli les actes propriétaires du site Tembela Tembe. Mais il se pose un problème d'ordre public et de l'intérêt général. Avoir ce site, il est placé dans un endroit où les institutions administratives et publiques ont jugé leur quartier général, je pourrais dire. Quelle serait la réaction de l'État? Va-t-il se laisser faire? Va-t-il se courber à la volonté du juge? Ou va-t-il faire recours à ses prérogatives qui fait qu'il puisse disposer de biens d'autrui? L'État, pour des raisons qui lui sont propres, a exproprié ce site-là. Il devait indemniser les victimes de cette décision et de les récaler dans un site nouveau.
Voilà, ce sont de très bonnes questions hein, que notre juriste a posées. Hein, je lui ai dit, maître Dominique va certainement y répondre, n'est-ce pas, maître? Alors, pour terminer, je dis là, ce serait bien quand même de rappeler aux auditeurs quand est-ce que ces gens ont vu leur maison détruite, hein, carrément.
Oui, pour un petit rappel, Nicole, il faut savoir que les maisons érigées sur le site Ménatéli ont été rasées par les tracteurs de l'hôtel de ville sur décision du Conseil des ministres provincial au mois de juillet de l'année dernière, précisément le 4 juillet. janvier 2007. Et comme le président du collectif des locataires de Cité Milatinil l'a dit, il y avait déjà des travaux de construction de certaines maisons qui étaient fort avancées, dont deux avaient atteint le deuxième niveau. Et le conducteur du bulldozer a eu beaucoup de peine aussi ce jour-là parce que l'engin s'accrochait à de nombreuses barres de fer utilisées pour consolider les édifices. Donc c'était précisément le 4 juillet 2007 qu'a eu lieu la démolition.
Et une année après, il gagne le procès.
Et voilà.
Et on va voir comment ça va évoluer, hein, parce que rien ne dit que réellement, ils vont être indemnisés. Hein.
Aujourd'hui, la semaine dernière, il y a eu la première phase, c'était la réinstallation des victimes sur le site.
Mm.
Et la dernière phase, c'est l'indemnisation.
Oui. Merci beaucoup, Julie Lambert, de l'avoir présenté ce dossier à nos auditeurs. Et nous vous rappelons, auditeurs de Radio Capi, que vous aussi, vous pouvez témoigner. Hein, si vous êtes propriétaire d'une des parcelles, aussi Timbé la Timbé, témoignez donc au 081. 891-63-94.
Okapi. Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle.
Avec l'appui des gouvernements suisses, britanniques, canadiens, suédois, hollandais et français.
Okapi.
Vous savez que tous les lundis, nous abordons un sujet en rapport avec le droit. Auditeur de Radio Capi, aujourd'hui, nous parlons de ce que dit la loi congolaise à propos de la réparation d'un préjudice. Nous sommes partis de l'exemple du site Tembe na Tembe. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes hein, qui avaient à construire dans ce site. On trouvait plus de 100 propriétaires des parcelles. Ils ont vu ainsi leur maison détruite. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont gagné le procès. Donc, l'hôtel de ville, notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa, devrait indemniser toutes ces personnes. La première étape, c'était en fait la restitution de leur terrain, et la deuxième étape, ce sera l'indemnisation. On va en parler avec maître Dominique Mwandu, qui est là justement pour nous donner beaucoup plus de lumière sur cette question. Maître, vous avez suivi le dossier que nous a présenté aujourd'hui. Hein. La plupart des gens se posent des questions aujourd'hui. Quelle est la procédure judiciaire à suivre pour obtenir une réparation satisfaisante du dommage subi?
Merci beaucoup, Nicole. On précise d'abord que selon la loi, particulièrement le Code civil congolais, à partir de ses articles 258 et suivants, la loi précise que toute personne qui commet un fait qui porte préjudice à une autre est tenue de le réparer. Ces faits peuvent être un fait personnel de l'individu, peut être un fait causé par un véhicule, un fait causé par un animal ou tout autre objet qui est sous sa garde. Et un préjudice peut être aussi la conséquence d'une infraction. Et la loi veut qu'en pareil cas, la personne qui a subi préjudice puisse obtenir réparation de manière intégrale. Et à ce niveau-là, on distingue plusieurs sortes de préjudices. Il y a le préjudice moral. J'ai donné l'exemple, lorsque vous perdez un membre de famille, vous êtes affecté sentimentalement, vous êtes affecté effectivement, comme je disais, vous avez subi un quelconque préjudice. Lorsque vous êtes objet à des lésions, c'est-à-dire vous avez connu des blessures au-dessus d'un accident, au-delà des lésions, au-delà du préjudice matériel que vous pouvez avoir subi sur vos biens, le fait de sentir une douleur, c'est un préjudice que l'on subit. Donc là, il s'agit là des préjudices moraux. Il y a les préjudices matériels. C'est lorsqu'on a subi une perte d'argent, une perte de biens, ou un bien a été endommagé. Là, il y a aussi les préjudices financiers, c'est-à-dire l'argent que l'on a dépensé parce qu'il y a eu un fait d'un tiers que l'on n'aurait dû pas dépenser si ce fait-là n'était pas intervenu.
Mmh.
Et la loi veut qu'il y ait réparation de manière intégrale. En ce qui concerne les préjudices financiers et matériels, on peut l'évaluer à partir de l'expertise, à partir de la valeur du bien perdu. Mais pour ce qui est du préjudice moral, il est vraiment difficile de l'évaluer, d'évaluer par exemple la douleur que l'on est en train de sentir, d'évaluer par exemple la perte d'un membre de famille ou d'un organe. À ce moment-là, les juges apprécient selon l'équité et selon le bon sens, la hauteur du préjudice des dommages et intérêts qui lui est alloué.
Oui, c'était bien de préciser cela à nos auditeurs, maître Dominique. Alors, je crois qu'on va plus s'étendre sur la préjudice, le préjudice financier et matériel. Parce que bon, on est parti de cet exemple du site Temena Tembe. Et ces gens-là, je crois qu'ils avaient quand même subi un préjudice, raison pour laquelle ils ont eu recours à la loi, hein, au droit. Aujourd'hui, ils ont gagné le procès une année après. La première partie, c'était la restitution des parcelles. Et la deuxième partie, c'est l'indemnisation. Mais pour en arriver là, ça a pris une année, maître Dominique Camando.
Effectivement, Nicole, je précise d'abord que lorsqu'il y a un préjudice, la personne auteur du préjudice peut s'exécuter volontairement. Et si la personne ne s'exécute pas volontairement, on peut l'y contraindre en allant devant la justice. Lorsque le préjudice résulte d'un fait civil, on doit saisir les tribunaux, et généralement c'est les tribunaux de grande instance, par voie d'assignation. Et lorsque la préjudice est la conséquence d'une infraction, le préjudice est la conséquence d'une infraction, on recourt au parquet en déposant une plainte ou par voie de citation directe devant les tribunaux qui va, outre les condamnations pénales de prison ou de l'amende, condamner aussi à la réparation du préjudice,
ce qu'on
appelle les condamnations civiles.
Et ils ont recouru à quel tribunal?
Dans le cas d'espèce, il s'agit du tribunal des grandes instances de la Gombe, bien sûr qu'il a été saisi par voie d'assignation contre le gouverneur et le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa.
Oui, mais la population s'étonne, hein, parce que dans bien des cas, ce sont toujours les plus forts qui gagnent, mais là, ce sont les plus faibles qui ont gagné, on peut le dire comme ça.
Effectivement, c'est ce qui s'est dit couramment à partir de l'histoire que notre pays a connue, mais en principe, dans un état des droits, il y a le principe de l'égalité devant la justice, l'égalité devant la loi. Et devant la loi, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. J'espère que ces procès est un exemple que nous sommes vraiment engagés sur le processus de la reconstruction de l'état des droits. C'est vraiment un bon exemple.
Oui, mais comment en est-on arrivé là, maître? C'est vrai qu'on n'est pas dans le secret des dieux, mais tout de même, les avocats de ces victimes ont recouru à quoi pour en arriver là?
Non, mais quand on est devant la justice, il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autres armes que la loi et les arguments juridiques à faire valoir pour pouvoir asseoir les prétentions que l'on demande et asseoir l'action que l'on soutient. Donc, devant la loi, devant la justice, en principe, il n'y a pas d'autres arguments que la loi.
Non, heureusement pour ces gens-là, cette fois-ci, il n'y a pas eu l'interventionnisme. Sinon, on est tout le temps habitué à des interférences, à des interventions de pouvoir ou des gens qui viennent influencer le procès. Ça ne manque pas. Dieu merci pour eux.
Effectivement, ce sont des situations qui arrivent souvent où les autorités politiques, l'exécutif et bien d'autres instances qui interfèrent dans l'administration de la justice. Or, selon la Constitution, il y a séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir doit travailler de manière autonome et indépendante.
Alors, il y a plusieurs questions qui nous arrivent à ce sujet, maître. On va attaquer directement avec les questions des auditeurs. Un auditeur qui dit « Félicitations au tribunal de grande instance de la Gombe. L'acte posé par vous est à suivre par les autres tribunaux afin de redorer le blason de la justice et de décourager l'exécutif à poser des actes qui sont parfois inconsidérés. » Ça, c'est Kassamba ou Anango qui le dit. Et une question pertinente posée par un autre auditeur qui dit « L'hôtel de ville n'ira-t-il pas en appel ?»
C'est pour cela que vous avez demandé, la décision a été rendue il y a longtemps, et pourquoi effectivement, quand une décision est rendue, il y a le temps pour préparer, d'actylographier la décision, la signifier, et quand on signifie une décision judiciaire, on ne peut pas l'exécuter avant que les délais prévus par la loi pour interjeter appel ne puisse s'écouler. On laisse passer ces délais-là parce que, en matière civile, par exemple, et dans bien d'autres matières, l'appel a l'effet suspensif de l'exécution des jugements. On ne peut pas exécuter une décision si les délais n'est pas encore écoulé, sauf s'il s'agit d'une décision rendue avec formule exécutoire, c'est-à-dire qu'on peut l'exécuter sans attendre les délais d'appel. Mais dans le cas d'espèce, je suis sûr que si on est arrivé à l'exécution de la décision, c'est que la décision a acquis ce qu'on appelle autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'elle est devenue exécutoire. Les délais d'appel se sont écoulées et le tel des villes où le gouverneur n'a pas intérêt à mettre.
Oui, Maître Dominique, parlons proprement dit de cette réparation. Est-ce que la loi congolaise autorise une réparation à tempérament? Je ne sais pas si ça peut être possible, c'est-à-dire quand celui qui succombe devant les procès n'est pas à même de pouvoir payer la totalité. Il se dit, bon, je vais payer par tranche, jusqu'à ce que je vais épuiser cette indemnité.
Le problème ne se pose pas. Il peut être trouvé une transaction ou un arrangement entre les parties. La partie succombante peut proposer à la partie qui a gagné le procès un échéancier pour pouvoir exécuter la décision. La loi ne l'interdit pas.
Alors, en cas de refus des réparations, qu'est prévoit la législation congolaise?
En cas de refus, une décision de justice s'impose et elle est opposable et s'impose à la personne condamnée. Lorsque la personne refuse de l'exécuter volontairement, on peut l'y contraindre, on peut procéder par des voies d'exécution, notamment par la saisie de ses biens qu'on peut vendre aux enchères par la voie publique pour désintéresser la partie.
C'est ce qu'on appelle
qui a gagné le
Alors, s'agit-il là, parce que le cas de CTM et la TMB, s'agit-il là d'un cas d'expropriation ou bien d'une destruction méchante? Dans ces deux cas, comment calcule-t-on les dommages et intérêts?
En principe, on parle d'expropriation lorsque l'État a pris une décision pour besoin d'intérêt général et a exproprié un particulier. Dans ce cas-là, la loi prévoit que la personne expropriée puisse être indemnisée. Et lorsque l'indemnisation n'a pas eu lieu, on peut aller en justice pour contraindre le gouvernement ou l'autorité publique qui a pris la décision à pouvoir verser à l'intéressé l'indemnité pour réparation. Mais on parle de la destruction méchante lorsqu'on a agi par mauvaise foi. La destruction méchante est une infraction punissable par la loi. Lorsqu'on a agi par mauvaise foi dans l'intérêt de nuire, et c'est dans ces cas-là, lorsque les éléments constitutifs sont établis, que l'on parle de la destruction méchante. Et dans ces cas-là, l'auteur peut être condamné aussi bien à la peine de prison, à la peine d'amende qu'à la réparation du préjudice.
Dominique,
le cas d'espèce, il s'agit d'une décision qui a été prise par le gouvernement de manière irrégulière, si on peut
dire. C'est de l'expropriation.
Non, c'est... Bon, peut-être c'était une décision d'expropriation, mais qui n'a pas été suivie de l'indemnisation conséquente. Mais si c'était une décision d'expropriation, les juges allaient respecter la décision de l'autorité en ce qui consiste l'expropriation parce qu'il s'agit d'un intérêt général à sauvegarder et condamner l'État seulement à la réparation. Mais dans le cas des pêches, on se rend compte qu'il ne s'agit vraiment pas de l'expropriation parce que le juge a rétabli les intéressés dans leurs droits. Ils ont repris possession de leurs biens, c'est-à-dire que ces biens n'étaient pas expropriés pour un intérêt général.
Maître Dominique Amando, il y a plusieurs questions qui nous arrivent. On va aussi donner la parole à nos auditeurs qui nous suivent et qui n'hésitent pas à réagir au 081-070-2050. Il y a cet auditeur qui nous dit « Je me pose une question. Comment une autorité de ce rang peut prendre une telle décision, autrement dit détruire des parcelles, et cette décision sera balayée par la justice ?» Il y a beaucoup de dépenses que le gouverneur devra faire. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, il a pris une décision, on suppose que c'était une décision légitime, mais comment ça fait-il que cette décision a été balayée par la justice?
Si la justice a pris une telle décision, c'est-à-dire que la justice s'est rendue compte qu'il n'y avait pas dans les dossiers des pièces qui pouvaient permettre qu'une telle décision puisse être prise. Et qu'en analysant la situation, on a trouvé que l'hôtel des villes de Kinshasa ou le gouvernement provincial de Kinshasa ne pouvait pas ou n'avait pas les droits d'agir de la même manière et que les personnes victimes avaient des titres en bonne et due forme qui couvraient et consolidaient leurs droits. Une autorité peut être rendue en erreur par les services qui l'entourent ou peut avoir une mauvaise appréciation de la question lorsqu'elle n'a pas pris le temps de bien analyser les dossiers, de bien aller en profondeur pour se rendre compte de la situation.
Parlons du droit proportionnel des 6%. Pourquoi c'est la partie gagnante qui doit payer? N'est-ce pas là une erreur juridique ou la législation congolaise.
Donc c'est ce que prévoit la loi, c'est qu'on dit en quelque sorte, comme l'a expliqué le confrère plus avant, il s'agit d'un impôt sur les frais à percevoir. Et c'est là qu'il y a la différence.
Donc la partie perdante qui devait succombante, qui devait payer cet impôt.
La partie succombante doit payer les frais de justice et tous les frais de procédure. Mais les droits proportionnels, c'est les droits proportionnels de ce qu'on a gagné. C'est un impôt sur ce qu'on a gagné et qu'on doit le payer. On ne paye pas en dehors de ce qu'on a
donc,
gagné.
Donc, si je comprends bien, sur les 20 000, c'est les 20 000 dollars que doit percevoir chacune des victimes. Voilà. On doit normalement
donner tout son temps. Les droits proportionnels.
Donc, ils n'auront pas les 20 000 dans son entièreté. Donc, ils auront, disons, moins les 6% des 20 000 dollars.
En principe.
Mais ils peuvent récupérer en plus, parce que vous avez suivi tout à l'heure l'avocat qui nous a dit qu'il y a certains éléments qu'on pourrait éventuellement ajouter au dossier.
Il y a, par exemple, si le juge a prévu la majoration de ces faits des intérêts judiciaires, il y a des intérêts judiciaires qui courent aussi à dater de la période où on a saisi le tribunal. Au moment de l'exécution ou du paiement, on doit réévaluer tous ces frais. Et si les parties succombantes ont payé aussi les frais de justice effectivement en lieu et place de la partie succombante, ces frais-là, au moment de l'exécution, doivent être restitués.
Donc on peut arriver au-delà de 20 000, hein,
ça peut aller jusqu'à 40 000 dollars. C'est la période des paiements, hein, quand cela va se faire.
Alors parlons de la phase d'exécution forcée. Parce qu'aujourd'hui, les cas de CTM et ATMB, le jeudi dernier, ils ont été réinstallés, ils ont recouvré leurs droits. De là, ou disons, nous ne partons pas du moment où la grande instance avait arrêté cette décision de pouvoir restituer le terrain à toutes ces victimes, mais si nous partons simplement du jour où on a été réinstallé, quand est-ce que peut intervenir la phase de l'exécution forcée au cas où, disons, la partie succombante ne se pliait pas?
En principe, on doit signifier à la partie succombante, je crois que ça doit être déjà fait, un itératif de commandement, c'est-à-dire un document qui lui demande de s'exécuter volontairement. Et on laisse passer un délai de 15 jours et on fait un rappel. Si on lui fait une sommation ou un commandement, si au bout de cela, elle ne s'exécute toujours pas, on peut procéder à l'exécution forcée, on peut procéder à la saisie des biens, on peut procéder à la saisie des comptes bancaires, et c'est là
que même moi, il s'agit de numéro 1 de la ville. Est-ce que les biens de l'État seront aussi attaqués?
Il y a, en fait, la différence entre les biens de l'État. Il y a les biens de l'État du domaine public, c'est-à-dire les biens qui sont affectés à l'intérêt général, qui sont affectés à un service public. Ces biens-là ne peuvent pas être saisis. Mais il y a les biens du domaine privé que l'on peut saisir pour désintéresser les autres. Par exemple, un véhicule qui est cédé à une autorité pour les transports personnels et non un transport de service. On voit des autorités qui ont des véhicules de l'État dans leur résidence, même pour le cours de leurs épouses. Il s'agit des biens du domaine privé de l'État. Ces biens, on peut les saisir.
Alors, parce que là, on assiste à un scénario. Ça, ce n'est pas la première fois que la partie, disons, le peuple ou le peuple gagne le procès contre la République. Pour le même dossier, en 85, Litomobouti, alors propriétaire de ce terrain, de ce site, c'était Benatembe, était en procès contre la République, avait également gagné le procès, mais 23 ans plus tard, on revient encore sur les dossiers, et c'est le même film, et la même partie gagne encore le procès. Alors, ne pouvons-nous pas craindre qu'il y ait une troisième phase, qui cette fois-ci, c'est la République qui va gagner?
Effectivement, on peut craindre que les préventeurs politiques et d'autres paramètres interviennent, mais nous pensons qu'à travers ces deux procès que vous venez de souligner, l'État doit faire plus attention avant de prendre certaines mesures.
C'est un
avertissement pour les instances publiques.
Donc la première étape a été exécutée, la restitution des parcelles, et la deuxième étape intervient quand? L'indemnisation proprement dite, elle intervient quand?
En tout cas, je n'ai pas les caisses du dossier devant moi, mais je ne sais pas si déjà pendant ces temps, l'hôtel des villes ou le gouvernement provincial de Kinshasa et en pourparler avec les autres protagonistes pour pouvoir trouver un
représentant.
Ils peuvent
normalement être déjà
à parler de 15 jours pour se mettre d'accord sur les montants à payer, les échéanciers. Je ne sais pas comment la procédure évolue, comme on n'a pas sous nos yeux les pièces.
Mais normalement, ça intervient une semaine après.
Ça dépend, ça peut intervenir si la personne condamnée est de bonne foi et veut s'exécuter volontairement.
Oui.
Parfois, ça peut même intervenir avant même l'installation. Ça dépend. Et je suis sûr que l'hôtel des villes n'a pas intercepté appel parce qu'on est déjà à la phase d'exécution des mouvements. Je crois que le gouvernement provincial va s'exécuter de bonne foi et volontairement.
Ouais, Maître Dominique, on va terminer par là avec les réactions de nos auditeurs. Il y en a qui nous dit, voilà, enfin, pour une fois, la justice a remporté devant le pouvoir public. Personne n'est au-dessus de la loi. C'était une réaction. Que fera la Cour de justice si son jugement incompatible avec les sinistrés? Vous avez compris la question de cet auditeur?
Bon, c'est logique. Je semble comprendre que la personne se demande que fera la justice si les parties ne sont pas contentes ou si le jugement est contre les intérêts des parties. La justice, si elle n'est pas saisie, la justice ne fera rien. C'est aux personnes qui sont mécontentes de la décision rendue d'interjeter appel pour que l'instance supérieure dans les cas de
fait, le nom de cette question, c'est que l'auditeur veut savoir si réellement la ville peut aussi aller à l'appel, disons, au niveau, par exemple, de la Cour suprême. Est-ce
qu'on peut
aller à la Cour suprême?
Quand il s'agit d'une décision du tribunal de grande instance, l'instance d'appel, c'est la Cour d'appel de Kinshasa, Gwende. L'hôtel des villes est une partie, ou le gouvernement provincial de Kinshasa est une partie au procès, et a tous les droits d'aller en appel pour s'il veut jouir. Mais il y a des délais pour ça. La loi prévoit un délai de 30 jours à dater de la signification du jugement. Si le délai a expiré, la partie ne peut plus se pourvoir en appel.
Oui, alors que nous disons qu'on soit complication à la justice qui commence à établir chacun dans ses droits. Que la justice au Nord Kivu suive le même exemple. C'est Guylain depuis Béni qui nous le dit, c'était Gustave à partir de Colézi également qui a réagi. Alors maître, on va s'arrêter là, c'est un dossier à suivre, on va voir maintenant comment la deuxième étape va être appliquée, autrement dit, l'indemnisation proprement dite des victimes, et puis on en reparlera une autre fois avec vous.
Effectivement, merci Nicole, merci Gérard.